Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Qu'est-ce qui va changer pour les demandeurs d'emploi? Bonjour Éric Heyer.
Bonjour.
Vous êtes directeur à l'OFCE. Votre dernier ouvrage s'intitule « Une autre voie est possible ». Il a été coécrit avec Pascal Lokiek et Dominique Méda. Pouvez-vous nous exposer les différents points de cette réforme donc?
Non, il faut simplement, il y a pas de grand changement, il y a juste un durcissement de certaines règles et surtout le fait que lorsque vous décidez de refuser deux fois une offre d'emploi, habituellement vous étiez uniquement radié, mais on vous enlevait pas des droits. Là, maintenant, il y aura des droits en moins, c'est-à-dire vous pouvez perdre un mois, deux mois, voire quatre mois d'indemnisation. Donc c'est des sanctions qui sont relativement lourdes. Bon, il y a aussi un journal de bord qui en numérique qui va être installé, donc ça, c'est pour donner un peu plus de facilité aux chômeurs qui sont connectés pour remplir leur dossier. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, il n'y a pas de règles nouvelles, mais on durcit ces règles de contrôle. Le changement dans l'offre raisonnable d'emploi, c'est que habituellement, tout de même, on décidait qu'une offre raisonnable d'emploi, c'était un emploi qui représentait au moins 95% de votre salaire antérieur. Là maintenant, il n'y a plus du tout de référence au salaire antérieur.
Alors ça, c'est quand même un changement significatif.
Oui, ça, c'est un changement significatif. C'est-à-dire que l'offre raisonnable d'emploi reste toujours là, mais on l'a durci là également. Et donc ça veut dire que vous pouvez devoir accepter une offre d'emploi qui peut être deux fois inférieur en termes de revenus. Et ça, on sait, parce qu'on a quand même quelques études économiques sur le sujet, que c'est pas bon à moyen, long terme
pas
pour
bon,
l'économie.
Ça veut dire quoi?
C'est que globalement, ça va pas créer de l'emploi, et ça va permettre à des personnes qui sont qualifiées d'accéder à des emplois beaucoup moins qualifiés, donc ça va prendre la place de personnes qui étaient non qualifiées, qui auraient pu avoir cet emploi-là, donc ça fait pas baisser le chômage, ça fait juste un changement dans la file d'attente. Et puis la personne qui a accepté un emploi qui est pas à sa qualification, généralement n'est pas à l'aise dans cet emploi-là et donc n'est pas productive, et donc à long terme, c'est pas bon pour l'économie de pas être employé à sa juste valeur.
Alors il y a une inconnue, c'est qu'apparemment ça va être jugé au cas le cas cette offre raisonnable.
Alors je pense que c'est là, alors ça c'est un avis complètement personnel, ça n'aura pas beaucoup d'incidence puisque c'est finalement Pôle emploi qui va décider de tout cela, et aujourd'hui on sent en tout cas chez les personnes de Pôle emploi une non volonté de durcir ces conditions-là. Et donc, puisque ce sera laissé finalement à la décision des salariés de Pôle emploi de finalement durcir ou pas ces conditions-là, on peut penser que dans un premier temps, ça n'aura pas une énorme incidence.
Alors, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire à quoi ça sert.
Ah ben oui, c'est une très bonne question. On voit bien que le faire, en plus d'un point de vue politique, au moment des Gilets jaunes, ça semble
Ça, c'était peut-être pas prévu.
Alors, ça a été rédigé juste avant le conflit des Gilets jaunes, mais ça arrive en plein Gilets jaunes où on voit bien que là, ils tapent complètement à côté du problème. Donc là, globalement, c'est un tout petit peu montrer cette idée de flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'on devrait donner plus aux chômeurs. Alors, qu'est-ce qu'on devrait donner plus aux chômeurs? Là, ça apparaît pas dans le décret, mais c'est dans le discours, c'est-à-dire que le chômeur devrait avoir un peu plus accès à de la formation professionnelle, et donc un peu plus de droits pour les chômeurs, mais un peu plus de devoirs. Le problème, c'est qu'on voit les devoirs supplémentaires, on voit pas tellement les droits, parce que rappelons-le qu'en même temps, il y a aujourd'hui une négociation sur l'assurance chômage, et dans la lettre de cadrage qui est donnée aux partenaires sociaux, il est demandé de trouver 3,5 milliards, quasiment 3,5 milliards d'ici la fin de l'année, 1,3 milliard chaque année d'économies. Donc on veut demander à l'assurance chômage d'absorber plus de personnes, puisqu'il y aura les démissionnaires, puisqu'il y aura les indépendants, mais avec des droits qui seront inférieurs.
Enfin, en tout état de cause, l'idée de cette mesure est d'augmenter le côté incitatif, comme on dit en novlangue, pour reprendre le travail, c'est-à-dire en fait faire pression pour que les chômeurs reprennent un travail, j'ai presque envie de dire quel qu'il soit.
C'est ça. En gros, on vous incite à reprendre très vite un emploi, et pour cela, on est prêt à vous enlever des droits si vous refusez un emploi qui n'est pas exactement dans vos qualifications.
Mais alors ça, peut-être que ça se défend sur le plan économique. Peut-être qu'il vaut mieux un mauvais emploi qu'un bon chômage, Éric Heyer.
Alors, encore une fois, si c'est dans vos qualifications, oui. effectivement, ça peut avoir un sens, même si on n'a pas de certitude de ce point de vue-là, mais puisque ça peut être...
On peut en avoir, alors, pas forcément sur le plan économique, mais peut-être sur le plan psychologique.
Oui, sur l'intuition, c'est-à-dire qu'il vaut mieux, effectivement, avoir un pied dans l'emploi, continuer à travailler, continuer à être sur le marché du travail, c'est plus facile pour avoir un emploi pérenne, ça c'est certain, mais il faut avoir un emploi dans votre qualification. Et là, c'est extrêmement important, parce que en acceptant des emplois dans une qualification plus basse, d'abord, c'est beaucoup plus difficile pour retrouver un autre emploi, parce que chercher un emploi quand vous êtes déjà dans un emploi, c'est beaucoup plus compliqué, et vous vous déqualifiez quand vous êtes dans un emploi qui n'est pas à votre niveau de qualification, et pour l'entreprise, ce n'est pas bon d'embaucher quelqu'un qui n'est pas fait pour ce job-là.
Jusqu'ici, le chômage a peu baissé. Éric Heyer, qu'est-ce qu'on peut escompter pour 2019?
Ah bah, pas beaucoup, beaucoup mieux, puisque l'activité va être...
C'est bien, on se réveille bien grâce à vous.
Bah, c'est-à-dire que globalement, la croissance économique va être plus faible, enfin, va être à peu près au même niveau, aux alentours de 1,5, 1,6 en 2019, et c'est à peu près le niveau de 2018. Mais malheureusement, à côté, il y a des politiques économiques qui vont être moins créatrices d'emplois, c'est-à-dire que les effets du CICE seront derrière nous, un certain nombre de dispositifs ont été arrêtés comme les emplois aidés, et on va continuer à détruire des emplois aidés. Donc du coup, bah, on devrait avoir une baisse du chômage qui doit être à peu près équivalente, même légèrement plus faible en 2019. Et donc selon nous, selon l'OFCE, le taux de chômage qui est aujourd'hui à 9,1 devrait être en fin d'année à 8,8. Donc vous voyez, c'est une très légère baisse, mais une baisse tout de même.
Les gains en pouvoir d'achat, dernière question, puisqu'il y en aura, puisqu'il y aura donc une augmentation de la prime pour l'emploi pour ceux qui sont aujourd'hui payés au SMIC, pas tous, mais une partie. Est-ce que ça pourrait avoir une conséquence en augmentant la demande intérieure?
Ah, ça devrait. Normalement, là, on est face à un petit plan de relance, de 10 milliards d'euros. Bon, c'est tout de même...
C'est pas si petit que ça.
Non, oui, voilà, c'est un demi-point de PIB, c'est pas rien. Et donc, ce petit plan de relance devrait effectivement inciter à un peu plus d'activité en ce début d'année. Mais vous voyez, l'économie n'est pas une science complètement exacte. Nous sommes des animaux, comme le disait Keynes. Et donc, le choix même de consommer, au lieu d'épargner, est-ce qu'aujourd'hui, face à un avenir qui est quand même un peu morose, est-ce que les ménages vont consommer ou épargner? Ça va être ça la question.
Merci beaucoup, Éric Heyer. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une autre voie est possible, coécrit avec Pascal Lokiek et Dominique Méda. C'est chez Flammarion.